à visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'information à visage découvert. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Orient. Et à visage découvert aujourd'hui, coup de projecteur sur les quartiers populaires après les municipales de 2026. Bilan d'un scrutin qui a réveillé, il faut le dire, des consciences dans ces quartiers qui ont pendant longtemps boudé les urnes. Un engouement qui a suscité bien des surprises et parfois des interrogations au sein d'une certaine classe politique. À moins d'un an de la présidentielle 2027, ce sursaut civique annonce-t-il l'émergence d'un électorat avec lequel il va falloir désormais compter ? En tout cas, c'est la question que nous allons poser à nos invités. Analyse et décryptage tout de suite avec nos invités ici présents dans les studios de Radio Orient, avec le maire de la ville de Colombes, fraîchement élu, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Joachim Giacomoni. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, je n'ai pas écorché le nom, j'espère.
Non, c'est parfait.
Excellent. Donc, vous êtes maire des Républicains. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce qui a provoqué justement cette alternance, puisque votre prédécesseur, le sortant, c'était un écologiste. Sur le plateau, infidèle et pas des moindres, infidèle de Radio Orient, Karim Amelal, ancien ambassadeur chargé de la Méditerranée, nommé par le président de la République. Il est enseignant à Sciences Po, mais il est écrivain. Il a plusieurs ouvrages. Mais nous, on se souvient d'un ouvrage qui était son best-seller, Discriminez-moi. Bonjour Karim.
Bonjour, ça ne nous rajeunit pas.
Eh bien, toujours d'actualité, quoi, votre ouvrage.
Malheureusement, en partie.
Alors, à vos côtés, Louis-Georges Tain, c'est aussi un habitué des studios de Radio Orient qui se bat depuis longtemps sur les statistiques ethniques et autres. En tout cas, Louis-Georges Tain, pour vous le présenter, il est fondateur et ancien président du CRAN. Le CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires et il est depuis pas longtemps Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. Il va nous dire en quoi ça consiste. Bonjour.
Bonjour Nadia.
Bon, la diaspora, elle a un État ici ?
Eh bien, il est dans le monde entier par définition et il a été suscité et j'ai reçu un mandat de l'Union africaine pour le créer. Le but étant de renforcer l'Afrique par la diaspora et la diaspora par l'Afrique.
Bon, on saura tout un jour, on fera une émission carrément dédiée à la diaspora africaine. Alors, je m'adresse à vous, monsieur le maire. Vous avez été donc élu avec plus de 54%, corrigez-moi si c'est faux, renversant le maire sortant, écologiste, 6 ans de mandat. Que s'est-il passé au juste ? Dites-nous tout. Est-ce que les électeurs avaient besoin de changement et pourquoi ?
Oui, en effet, je pense que les électeurs ont manifesté l'envie d'un profond changement, puisque c'est une jolie victoire, effectivement, plus de 54%. Mais je pense que si on veut comprendre les résultats, on ne peut pas fermer les yeux, surtout sur le score du premier tour. Le score du premier tour, c'est un maire sortant qui plafonne à 18% et qui manifeste du coup un rejet massif. C'est assez rare de voir un score si bas pour un maire sortant. Donc il y a une sanction qui a été apportée par les habitants de Colombes, qui est claire.
Les écologistes n'ont pas fait le job, c'est ça ?
Je pense que les écologistes aujourd'hui ont un problème d'identité, parce que si vous me posez la question en voulant définir les écologistes avec ce que sous-entend le mot écologiste en premier abord, l'environnement, le cadre de vie, aujourd'hui les écologistes s'attachent à faire de la politique bien au-delà et bien autre que le cadre de vie. D'ailleurs, peut-être même ont-ils tendance à oublier le cadre de vie des gens à qui ils se sont adressés en 2020 et 6 ans plus tard... Le rejet a été manifeste, oui.
Alors comment on peut justement interpréter ces petits séismes, une ville qui est à gauche et puis après elle balance à droite Karim Amelal ou Louis-Georges Tain ? Quelle est votre analyse ?
Je pense que c'est une analyse assez, assez factuelle et assez simple. Elle repose sur des critères objectifs. Je pense qu'il y a les résultats de l'équipe municipale sortante, d'abord. Est-ce qu'ils ont fait du bon boulot ou pas ? Est-ce qu'ils ont déçu ou pas les attentes ? Et puis, il y a aussi un certain nombre de critères un peu différents, c'est-à-dire liés à un ras-le-bol au niveau national, des sentiments qui s'expriment à un instant T et qui se cristallise à l'occasion d'une échéance électorale comme les élections municipales. Mais sur les élections municipales, enfin, moi j'ai eu l'occasion d'y participer un tout petit peu, parce que j'ai été tête de liste à Paris il y a quelques années maintenant, oui, bien sûr. C'est avant tout des considérations très locale, très localisée, très simple, très basique, qu'éprouvent les citoyens dans leur diversité, justement, qui conduisent les uns et les autres à voter pour un tel ou une telle, à sanctionner l'équipe sortante et à faire confiance à une nouvelle équipe ou à de nouveaux visages qui portent une aspiration nouvelle.
Louis-Georges Thin, il y a un enjeu local, mais on choisit bien sûr l'homme, mais surtout son programme. Ce qui s'est passé à Colombes, selon vous, ou même ailleurs.
Je ne me prononcerai pas sur Colombes, je ne suis pas habitant, ni encore moins expert, mais finalement, en effet, c'est 36 000 élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et ce qui était frappant d'ailleurs, c'est que cette soirée électorale du 22 mars, c'était un peu l'école des fans. C'est-à-dire que tout le monde avait gagné, tout le monde avait 10. Les LR ont dit, mais c'est nous qui avons le plus de communes, ce qui n'est pas faux. Le Parti Socialiste a dit, nous avons les grandes villes, ce qui n'est pas faux. Ouais. LFI dit, nous avons beaucoup progressé, ce qui n'est pas faux. Le RN a dit la même chose, ce qui n'est pas faux. Ouais. Donc tout le monde est content. C'est un peu étrange.
Alors c'est un peu étrange, pour vous aussi, justement, c'est l'arrivée de la droite qui était déjà avant à Colombes.
Alors c'est tout sauf étrange, quand on sort d'une campagne électorale, on l'a fait avec conviction et donc on n'est pas forcément étonné par le résultat, en tout cas je ne le suis pas, je sais aussi qu'il est le résultat de 3 années consécutives sur le terrain à la rencontre de l'ensemble des Colombiens et tout était fait et mis en œuvre pour entendre leurs inquiétudes et pouvoir y répondre au terme de cette campagne électorale.
C'était quoi justement la grosse inquiétude des Colombiens justement, qui a fait qu'il y a eu ce besoin d'alternance.
Colombes, c'est presque 100 000 habitants.
Oui, où il fait bon vivre à Colombes.
Où il fait bon vivre, mais c'est une petite France. C'est un Colombien, c'est un Français sur 700.
Ouais.
Donc les priorités, finalement, des Colombiens, ce sont celles des Français.
Ouais.
Et quand les Français ont manifesté la priorité de la sécurité, de la propreté, ben on les retrouvait exactement de la même façon dans Colombes.
Alors qu'est-ce que vous promettez en matière de sécurité et en matière de propreté? Alors propreté, en une semaine, Colombes va devenir la ville la plus propre. Ça nous rappelle la campagne électorale d'une certaine Rachida Dati, justement. Et est-ce que vous allez justement vous rester sur municipalité, bien sûr très propre, mais aussi où il fait bon vivre, mais surtout sécure, une ville sécure. Est-ce que c'est le cas?
Écoutez, je pourrais répondre très politiquement à votre question en vous disant bien sûr, je vais faire une ville très sûre et très propre. Mais je crois que l'enjeu en fait, de ces préoccupations, c'est de savoir d'abord à qui on parle et ce qu'on leur raconte. Et je pense que la priorité finalement de ces enjeux, c'était de constater que l'on soit un habitant du nord de Colombes ou du sud de Colombes, d'un quartier résidentiel ou d'un quartier populaire, en fait les préoccupations étaient les mêmes. Et le job de maire, c'est justement de s'occuper du quotidien et du cadre vie de ses habitants. C'est pas de s'inventer une nouvelle politique nationale et de transposer les enjeux nationaux en local. Donc en fait, oui, ces préoccupations étant manifestées, il faut savoir y répondre. Alors l'enjeu, c'est pas de vendre du rêve, c'est pas de vous dire que la ville va être propre en une semaine ou en 3 mois. D'abord, ça n'aurait pas de sens, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit propre pendant 7 ans. Et qu'elle soit sécure pendant 7 ans. Pour la simple et bonne raison que mon obsession n'est pas le mot sécurité. Mon obsession, c'est le mot liberté.
Alors,
et que la sécurité, c'est la première des libertés.
Une police municipale armée?
Une police municipale armée.
Avec plus de caméras?
Avec plus de caméras, de vidéosurveillance et de vidéoprotection, ça s'appelle comme ça, mais également de vidéoverbalisation.
Lorsqu'on interroge justement les jeunes de ces quartiers, on remarquera qu'ils ne manifestent pas, il faut le dire, un grand engouement pour la politique. Comment vous expliquez ça, monsieur le maire, et puis bien sûr réaction avec nos invités?
Mais écoutez, je crois qu'à Colombes, alors dans ce cas-là, on n'est pas dans cette norme. Je pense qu'à Colombes, les jeunes, quels qu'ils soient, sont très intéressés.
Ils ont voté massivement à Colombes?
Dans les quartiers populaires, ils votent massivement. Ils votent, ils participent à l'élection et surtout sont acteurs déjà pendant toute la campagne de la campagne électorale. Ce sont des relais. Il y a un milieu associatif très développé. Et puis, j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de rencontres sur le terrain avec eux. Pour manifester finalement ce sentiment d'abandon. Et je pense que c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés par la politique, c'est que au contraire, ils sont dépités qu'on ne s'intéresse pas à eux.
Oui.
C'est la politique qui ne s'est pas intéressée à eux.
Et sur votre liste, on l'a regardé un petit peu, justement, la diversité, elle n'est pas en bas du tableau?
Ah, je ne crois pas qu'on puisse dire que sans ma liste, la diversité soit...
Il y a du horizon, surtout.
Alors,
vous avez été chercher justement
politique, la diversité politique, toutes les étiquettes politiques de la droite et du centre étaient sur la liste.
Voilà.
Du Parti Radical, Nouveau Centre, UDI, Horizon, LR, nous étions là. Et puis, des personnes qui ne sont pas du tout encartées. Et sur la diversité des origines des parents ou grands-parents des candidats, je pense qu'elle est vraiment diverse. Et elle me caractérise particulièrement.
Alors, sur la question de l'engouement de ces jeunes qui ont manifesté, il faut le dire cette fois-ci, plutôt un grand intérêt à ce scrutin, Louis-Georges ou Karim Amelal. Karim Amelal, allez-y.
Rapidement, c'est un phénomène paradoxal, je pense, parce qu'il y a toujours, on prend une ville comme exemple, une ville comme Marseille, que je connais très bien, vous avez toujours, dans les quartiers populaires, dans les quartiers nord, comme on dit, une abstention qui est considérable, une abstention des jeunes. Simplement, cette abstention, d'abord, a tendance à s'étioler un tout petit peu, je crois qu'elle est, ça dépend des élections, il faudrait regarder ça de beaucoup plus près, avec des chiffres à l'appui, mais elle a été à l'occasion des municipales, qui est un scrutin de proximité, donc les gens ont tendance à voter un tout petit peu plus parce qu'ils connaissent ceux qui ont vocation à être leurs représentants. Et d'autre part, cet abstentionnisme, ce mouvement de retrait est aussi à nuancer parce qu'il y a, dans l'autre sens, une plus forte participation politique, c'est-à-dire une participation sur les listes, une participation dans la vie publique, une volonté de participer dans la vie publique. Et à Marseille, c'est particulièrement manifeste, puisque des quartiers nord, un certain nombre de personnes, de personnalités, je pense à Amine Kessassi, par exemple, qui est bien connu désormais en lutte contre le trafic de drogue, eh bien, sont entrés en politique. Ce n'était pas la première fois pour Amine, parce qu'il l'avait déjà fait lors des législatives, mais enfin, il a été élu. Il est aujourd'hui en bonne place parmi les adjoints de Benoît Payan. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres qui sont issus non seulement de la diversité, mais aussi des quartiers nord de Marseille, où en même temps, il y a encore une forte abstention. Donc c'est un phénomène complexe, mais qui est à nuancer.
Il est à nuancer, complexe, mais aussi, j'ai envie de dire, il y avait un danger à Marseille. Hein. Il y avait un danger, bien sûr, parce que le candidat RN était au coude à coude pratiquement avec Benoît Payan. Est-ce qu'on peut dire que justement cette jeunesse vote lorsqu'elle sent le danger arriver?
Alors, je crois que c'est vrai. Et il est vrai que pendant longtemps, les partis politiques ne s'intéressaient pas à ces jeunes. Quand on leur demandait concrètement ce qu'ils voulaient faire, ils n'avaient rien à dire.
Ouais.
Et donc, c'était pas tellement que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est que certains politiques ne s'intéressent pas à ces jeunes.
Tout à fait.
Mais ces jeunes qui, en 2005, s'étaient mobilisés dans les rues ou dans les associations, aujourd'hui, ils sont dans les partis politiques. C'est ce parcours d'intégration qui inquiète les racistes, mais ça, c'est leur problème. Et aujourd'hui, il y a dans les équipes municipales des gens qui sont en place. Rien qu'à Paris, par exemple, parmi les adjoints, vous en avez un tiers qui sont issus de la diversité.
Ouais.
Vous avez Audrey Pulvar, vous avez la première adjointe, par exemple. Et il y a une quinzaine de villes, notamment en Île-de-France, bien sûr, qui sont dirigées aujourd'hui par des personnes de la diversité, et dans les conseils municipaux, bien plus. Et donc, il y a eu un phénomène qui n'a pas été tout de suite observé. On s'est beaucoup cristallisé sur Bali Bagayoko à Saint-Denis, bien entendu, mais derrière lui, il y en a quantité d'autres. Et donc, il y a un phénomène de génération qui est, je crois, la deuxième vague après la vague de 2005. Nous sommes 20 ans plus tard. Les choses changent et ça préfigure finalement l'affrontement de 2027. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui parlent de la France éternelle qui n'a jamais existé. Il y a ceux qui parlent de la Nouvelle France. Et voici les deux récits qui vont s'opposer. Entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt des gestionnaires, en gros du Parti Socialiste OLR, qui n'ont pas véritablement un récit à proposer et qui sont un peu le ventre mou de la politique française.
Là, vous interpellez Monsieur le maire, qui est LR, justement, votre réaction immédiate par rapport à Louis-Georges Jottin, qui dit qu'effectivement ça a surpris, mais ça a aussi alimenté des commentaires, pour ne pas dire exagérés, voire déplacés.
Non, moi je pense qu'il n'y a pas de France. Je pense que justement, dans vos propos, je hausse les sourcils, mais... il y a, entre les deux France, il y a surtout la République. Et ça n'est pas le ventre mou, la République. Ce sont les valeurs qui permettent de réunir les uns et les autres. Et je veux bien qu'on puisse faire un constat sur les élections et en parlant de diversité et d'origine. Mais mon combat dans cette élection, moi, a été justement de m'adresser aux Colombiens. Parce que je ne vois que des Colombiens. Et je pense que cette instrumentalisation des origines des gens ne contribue pas à effacer justement ces problèmes d'intégration et de diversité. Je pense que le jour où justement on arrêtera de jouer et de rappeler sans arrêt l'origine des gens et de leur faire remarquer qu'ils sont quelque part différents, on aura déjà fait un progrès.
Mais si vous permettez, Monsieur le maire, on a entendu certains personnalités politiques parler de l'éruption d'un vote ethnique. Vous parlez de la République. Nous sommes rejoignants, bien sûr, dans cette analyse. Karima Bellal, justement, sommes-nous justement face à un vote citoyen, républicain, un sursaut citoyen et surtout civique?
Moi, je crois qu'il y a effectivement un certain nombre de personnalités, il y a un parti politique, en l'occurrence, qui a plutôt tendance à, je dis franchement, instrumentaliser l'identité, et qui en a fait un leitmotiv de sa proposition politique, et ça fonctionne parce que il y a une nouvelle génération qui arrive à maturité politique, parce que les accès sont ouverts aussi dans les partis politiques, parce que LFI, indiscutablement, a ouvert les vannes, au moins sur le plan local. C'est indiscutable. D'ailleurs, ça fait penser, c'est assez frappant de voir ça encore une fois. Il faudrait regarder la photographie électorale de façon plus précise. Mais on a là une sorte de relan de la ceinture rouge. C'est assez frappant de voir de quelle manière est-ce qu'un certain nombre de communes de la première couronne, de la petite couronne, de la grande, ont été emportées par LFI. Bon, il y a à la fois un phénomène lié au parti lui-même et à l'instrumentalisation, ou en tout cas à l'utilisation qu'il fait de la diversité.
Ce qui veut dire à lui, que nous sommes en face de deux France, vous le rejoignez?
Moi, je ne sais pas, j'aime...
Alors, je ne sais pas, deux France, mais deux récits. Et au niveau d'une présidentielle, c'est important d'avoir un récit, d'avoir une vision. C'est pour ça que LR fait par exemple des scores assez intéressants d'une certaine façon au niveau local, mais on a vu Mme Pécresse faire moins de 5% aux élections nationales. Donc, aux élections locales, il faut être concret. Aux élections nationales, c'est pas seulement être concret, il faut aussi avoir une vision. Et beaucoup de gens reprochent au PS comme au LR d'avoir un manque de vision, d'avoir véritablement plutôt une approche un peu pampan, plan-plan, à la papa, papy, peut-être. Et c'est cela qui leur a manqué, je pense, lors des dernières élections. Moi, je ne suis pas là pour dire qui a raison ou qui a tort, mais je constate qu'il y a effectivement des évolutions majeures dont certains ont tenu compte. Mais il est vrai que LR aujourd'hui a un problème d'identité très fort. Pourquoi ?
On va revenir sur ça.
On a vu Monsieur Retailleau parler des régressions ethniques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en dessous du fait de leur ethnie? On a l'impression qu'il est un peu à la remorque du RN, et cela n'est pas très bon pour son parti. Et c'est aujourd'hui le RN qui tire les marrons du feu.
Eh bien, on va revenir, bien sûr, avec vous dans nos studios sur justement ce décryptage de ce scrutin 2026. On marque une pause et nous allons retrouver, bien sûr, dès ce soir à 22h, l'intégralité de l'émission avec nos invités à visage découvert. C'est aussi à 22h, mais aussi jeudi à 8h du matin et le samedi à 9h du matin. Restez branchés sur les programmes de Radio Orient. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre émission à visage découvert. Décryptage et analyse avec nos invités sur le municipal donc 2026, bien sûr avec un regard particulier, coup de projecteur sur les quartiers populaires, avec le maire de Colombes fraîchement élu, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau, Joachim Giacomoni, donc maire LR, Karima Mellal, enseignant-chercheur, mais ancien ambassadeur de la Méditerranée, nommé par le président de la République, mais aussi écrivain. Louis-Georges Tain est fondateur et ancien président du CRAN. Donc le CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires. On en était dans la première partie, on a évoqué un petit peu cette France qui est un peu fracturée, mais force est de constater, bien sûr, si on revient au récit républicain, la République est une et indivisible, monsieur le maire.
Elle est. Je peux rebondir quand même juste sur le propos juste avant. Je suis désolé, mais...
Vous en prie.
Vous parlez de mon parti politique. Non, nous ne sommes pas à la remorque. Nous ne sommes pas à la remorque du RN. Et justement, il y a des récits qu'il va falloir cesser. Il y a eu des élections municipales dans toute la France. Est-ce que vous avez vu un accord entre LR, un accord politique entre LR et le RN?
Mais il y a quand même des déclarations, permettez-moi, monsieur le maire. Allez-y, je vous laisse terminer parce que
justement.
Éric Ciotti a quitté les LR.
Mais justement.
Laurent Wauquiez parle justement des nouvelles droites qui vont de Laurent Wauquiez jusqu'à Sarah Knafo. Bah, c'est pour vous dire que ça bouge. Ça bouge au sein des LR,
ça
ne peut pas le cacher.
Ça fait 25 ans, voire 40. Vous savez que j'entends ce discours d'une collusion entre les républicains du RPR aujourd'hui. Sauf que ça ne se fait jamais. Pas un accord électoral entre LR et le RN. Pas un seul. Il y a eu 8 accords avec des partis de droite et le RN, ça n'est pas chez LR. Et c'est important, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une tendance à vouloir faire cette collusion, qui ne sont pas les mêmes partis de la République, justement, et les mêmes valeurs, il y a eu exclusion, ou il y a eu, même, rappelez-vous, en 98 au régional, exclusion des présidents de région. C'est un parti qui a toujours été clair, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy au président de droite, il n'y a jamais eu, factuellement, une collusion. Donc il y a un moment, il ne faut pas inventer un rêve pour se trouver un argument politique. Ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui du PS, qui, aux arrangements des élections, s'amusent à faire ces petits arrangements électoraux et font les fusions qu'ils ont dénoncées pourtant en premier tour. Le mensonge en politique, c'est ce qui discrédite.
C'est discrédite et ça désarçonne complètement l'électorat.
J'ai gagné cette ville
dire.
Sans faire aucune fusion.
Ouais.
Pourtant, j'avais 2 dissidents de droite et un candidat RN. J'aurais pu prendre ce risque. Je n'étais qu'à 33% au premier tour et je fais 54. La clarté, la colonne vertébrale en politique, c'est important.
Oh.
Dire que Bruno Retailleau, à un moment, sous-entend qu'il y a des sous-citoyens, pardon, mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Dénoncer une
situation... Ça veut dire quoi, une régression ethnique ?
Dénoncer une régression ethnique, à un moment, pour dire qu'il y a, à un moment ou à un autre, sur le territoire, des gens qui n'arrivent plus à pouvoir vivre comme on peut l'entendre sur le territoire, ça ne veut pas dire être convaincu que ça existe, que ce,
mais
ce soit
ethnique ? Ce qui défend. Pourquoi ethnique ? Je n'ai pas compris ce mot. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer clairement ?
Pardon, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Pourquoi ethnique ? Vous êtes représentant du cran. Vous organisez vous-même un mouvement de pensée qui s'organise sur l'origine ethnique d'une population, la diaspora africaine.
Et
est-ce
quand
que
il y a
une insulte de prononcer le mot ethnique, seulement quand c'est, dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur.
Non,
de
moi, ce qui me gêne, c'est quand il y a régression ethnique dans la même phrase. On a l'impression que quand on est d'origine diverse, on est en régression.
C'est le
donc
mot
moi,
régression qui pose problème.
C'est le mot régression collée ethnique qui pose problème. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Est-ce qu'une le CRIF, c'est une régression juive ? Est-ce que les associations féministes, c'est des régressions de genre ? Est-ce que des associations, etc., c'est le mot régression avec ethnique qui pose problème ? Bon, enfin bon, on va pas faire un débat là-dessus.
Mais Karima, mais monsieur, là, une explication sociologique et politique,
non,
justement.
Mais
ces régressions ethniques.
Ce glissement qu'on observe depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, pas depuis les 2 ou 3 dernières années, pas depuis que Bruno Retailleau a été ministre de l'Intérieur ou président des Républicains, depuis fort longtemps. J'avais écrit un bouquin qui s'appelle Bleu, Blanc, Noir il y a 10 ans, où je racontais la banalisation du discours, du récit et des thèmes de l'extrême droite. Dans le paysage politique et effectivement à droite. Bon, donc ce que raconte Bruno...
Ça, on l'entend, mais visiblement, monsieur le maire, vous ne l'entendez pas, vous,
bah, c'est un phénomène, je pense,
je
assez...
Je crois que tout le monde le constate.
Oui, assez indiscutable. Pour des raisons électorales, pour des raisons politiques, pour des raisons qui sont liées à ce qu'est aujourd'hui LR, c'est-à-dire un parti qui a considérablement rétréci et qui est bien obligé de se trouver de nouveaux ballons d'oxygène.
Ça fait sourire, monsieur le maire, il y a une réaction par rapport à ça.
Bon, alors ça s'est pas exprimé, peut-être, et monsieur le maire a raison sur ce plan-là, ça ne s'est pas exprimé lors des élections municipales par des accords de parti entre LR et le Rassemblement National. Et c'est tout à votre honneur, et c'est vrai que ça a toujours été une constante depuis le président Chirac. Mais c'est dans les mots, c'est dans l'atmosphère, c'est dans les... Oui, les positions de Bruno Retailleau sont aujourd'hui indiscutablement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à droite, pour ne pas dire... à certains égards à l'extrême droite, que par exemple les positions du président Chirac, qui a été président ou patron du RPR il y a maintenant plusieurs décennies. Donc il y a un net glissement qui n'est pas qu'à droite, qui est aussi dans une partie du centre, famille politique dont je suis plutôt proche. Donc c'est un phénomène politique qui s'explique par bien des raisons, qui n'est pas que français, rappelons-le, qui est européen, qui est même occidental, qui est à la fois par le haut et par le bas.
Par le
haut parce qu'il y a une idéologisation de ces sujets, et par le bas parce qu'il y a, de la part du corps électoral, de la part du corps politique, un certain nombre de demandes sur, par exemple, la sécurité, sur les questions de religion, d'islam notamment. Il y a des demandes indiscutables d'une partie, et d'une partie seulement, du corps social. Alors après, certains grossissent considérablement par un effet de loupe ces demandes-là, qui n'émanent que d'une partie du corps social, pour en faire des arguments politiques. C'est là
alors,
où il y a problème.
Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse le débat uniquement sur LR.
Alors, on va revenir justement, vous me tendez
non,
la perche, parce qu'on va revenir justement sur le vote des jeunes dans ces quartiers. Nous sommes à moins d'un an, il faut le dire, de la présidentielle. Est-ce que ces résultats des municipales vont chambouler, pour ne pas dire poser de nouvelles nouvelles bases pour en termes de rapport de force pour les prochaines échéances électorales, alors, en l'occurrence la présidentielle.
Ben voilà, on enchaîne tout de suite. Hein. Au fond, on a quand même eu beaucoup d'élus de la diversité depuis 20 ans. Nicolas Sarkozy avait commencé avec pas mal de personnes, comme Rachida Dati, qui est toujours là. Dans le gouvernement de M. Hollande, il y avait à certains moments jusqu'à un tiers de personnes issues de la diversité. Et on aurait pu croire que les Français, finalement, s'étaient habitués à tout cela. Beaucoup de gens ont été surpris, finalement, de la vague raciste autour de Bali Bagayoko, mais pas seulement. Et qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit d'une part la persistance du discours raciste en France, mais aussi l'impression que les gens ont eue que quelque chose s'était passé. Et en effet, quelque chose s'était passé. Parce que finalement, un ministre noir ou arabe, des élus, font partie d'un collectif. Mais quand vous avez un maire, c'est quelqu'un qui est issu du suffrage direct et qui est un chef de l'exécutif, et même pour M. Onfray, un chef de tribu. Donc, évidemment, l'expression est raciste, mais elle traduit quelque chose. Ils se disent, mon Dieu, il y a des gens qui sont d'origine diverse et qui sont aussi en capacité d'accéder à un exécutif. Et pour certains, ils se disent, mais demain, c'est quoi l'étape suivante ? Aurons-nous un président noir comme aux États-Unis ? Alors, donc, je crois qu'il y a eu une sorte de panique raciale qui a saisi toute une partie du champ médiatique et politique, de CNews jusqu'à France Info. Et c'est cela aussi qui est intéressant à analyser.
Mais je pense que ce qui est intéressant aussi à analyser,
quelque chose qui se passe.
C'est le discours aussi de Bali Bagayoko, qui n'est pas tombé dans ce piège, qui a fait
un discours extrêmement républicain, très intelligent.
Absolument.
Et je dois dire qu'il est frappant de voir qu'il y a autour de lui beaucoup de haine, mais qu'il suscite lui-même beaucoup de joie. Quand on le voit dans la rue, les gens sont très heureux. Et donc, je trouve qu'il est remarquable de ce point de vue parce qu'il reçoit des crachats et il est aussi brillant qu'avant. Et je crois que la plupart de ces maires, finalement, ils donnent une leçon républicaine. C'est-à-dire qu'au fond, tout cela, toutes ces insultes, toutes ces critiques complètement ridicules, ça ne les atteint pas. Ils sont là parce qu'ils ont été élus et ils vont faire leur travail tout simplement.
J'ai envie de dire, susciter un autre sursaut civique pour 2027 ou alors plutôt un dégoût, hein, parce que quand on entend certains d'une certaine classe politique réagir de la manière, ça suscite effectivement un dégoût à l'égard de la classe politique. Monsieur le maire, votre réaction par rapport à ça ?
Oui, parce que c'est dégoûtant tout simplement, donc que ça suscite un dégoût, oui, clairement. Mais... Enfin, je ne suis pas d'accord avec l'analyse où le maire de Saint-Denis est un maire tout à fait honorable et qui doit être respecté en tant qu'élu et en tant que personne sans autre critère. Ce n'est pas un nouvel arrivé dans la vie politique. Il était déjà élu. Ce n'est pas un débutant. C'est un ancien membre du Parti communiste qui pêche chez LFI. Le résultat de l'élection, du climat autour du maire de Saint-Denis, ce n'est pas sa couleur qui a suscité ça. C'est la haine de cette campagne électorale que nous avons tous vécue.
Il y a un peu des éléments liés à sa couleur.
Mais vous croyez que c'est ma couleur qui a généré la haine que j'ai eue sur mes affiches ?
Non,
mais j'ai vécu la même chose.
C'était une campagne
violente. J'ai vécu la même chose. J'ai eu des affiches où j'ai eu des croix gammées, sur l'affiche d'à côté des étoiles de David, le mot collabo, le mot facho, le mot pédé, le mot homophobe. Est-ce que je suis noir ? Non. Je ne suis pas juif.
Oui, on ne parle pas du même sujet, là.
Mais pour le coup, non, je vous parle du même sujet, parce que vous résumez comme un trophée la couleur du maire de Saint-Denis. Je trouve que c'est pas ça.
Allez jusqu'à comparer, parce que c'est le sujet de l'émission. Bali Bagayoko à un singe, on n'est plus dans la couleur.
Non, c'est honteux, c'est ce que je dis, ça amène au respect.
Mais
l'ambiance nationale qui commente la vie de cette vie locale de Saint-Denis dans laquelle ils ne sont pas, c'est condamnable partout.
On est d'accord.
J'ai moi-même sur mon territoire donc des choses qui font, et ça ne se résume pas à la couleur. Les débordements, c'est la violence de cette campagne municipale qui est instrumentalisée effectivement par des gens qui ont théorisé la bordélisation de la vie politique française. Et quand on se conduit comme on se conduit à l'Assemblée nationale, il ne faut pas penser que sur le terrain, ça n'a pas des conséquences chez les militants.
Mais on assiste aussi à une banalisation.
Est-ce que vous êtes en train de dire que les élus,
il a fallu à Colombe
qu'il suive la vie
et la diversification,
il a fallu à Colombe que le préfet mette sous protection un de mes colistiers parce qu'ils étaient remontés. Les militants d'en face, de gauche, ils étaient montés jusqu'en 2015 sur une publication Facebook parce qu'il avait publié un « Je suis Charlie » et la caricature associée de l'époque. Mmh. On peut avoir l'avis qu'on veut sur les caricatures, on peut avoir ce qu'on veut comme avis, c'est pas mon problème. Quand une campagne en arrive là et que c'est instrumentalisé par des forces politiques, les résultats sont violents de toutes parts.
Ouais, en même temps, monsieur le maire, on ne peut pas dissimuler aussi cette parole raciste qui s'est libérée. Il y a même une recrudescence dans cette parole raciste. Ça, on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Quand on entend sur certains plateaux des politiques tenir des propos, c'est plus que de l'instrumentalisation. On est dans le formatage, justement, et dans la transformation de ce récit national qui nous inute tous, Karim Abellal.
Oui, il est indiscutable qu'il y a à tout le moins une persistance du discours raciste. Il y a une enquête de l'IFOP il y a quelques jours qui le démontre de façon éloquente, malheureusement. Ouais. Je crois que ça s'inscrit dans un phénomène qui est beaucoup plus large, qui est celui de la brutalisation de la vie politique. Qui est pour le coup de moins en moins polissée et de plus en plus brutale, violente. Il y a une violence politique dans notre pays, et notre pays n'est pas le seul dans ce cas-là. Hein. Encore une fois, c'est un mouvement plus global qui fait écho d'ailleurs à la marche du monde et à ce qui se passe de façon beaucoup plus large.
C'est important
qui répond aussi, mais qui répond aussi à des fractures. Et je pense que c'est ça l'important en réalité, par-delà ces débats qui procèdent de violences de notre société, de fractures qui existent, de fractures sociales, pour reprendre une formule bien connue il y a quelques temps, de fractures économiques. Les prix de l'essence à la pompe sont en train de flamber, il y a une inflation qui est considérable. Je veux dire, c'est ça les préoccupations des Français, c'est ça, parce qu'on peut parler encore à nouveau de la diversité. Je suis d'accord avec ça, il faut en parler et il faut constater les progrès, les avancées sur les listes, qui est un maire de Saint-Denis qui soit un élu noir, c'est très bien, j'en suis très content. Qu'il soit la cible de discours racistes, c'est lamentable, consternant, et il faut combattre ça. Mais enfin, les gens votent aux élections municipales et ils voteront demain aux élections présidentielles sur la base de problématiques qui sont liées à leur vie, à ce qu'ils sont. Il y a des problématiques de reconnaissance. C'est très important, la reconnaissance. Reconnaissance, la diversité, etc. Tout ce dont on parle. C'est très important. Le fait pour un musulman de pouvoir vivre sa religion comme tout le monde, de pouvoir prier, pas dans des garages, etc. Des débats qu'on a depuis 20, 30, 40 ans. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, des problématiques qui sont des problématiques économiques, des problématiques sociales, des problématiques qui tiennent à l'ordre du monde, à ce qu'est la France aujourd'hui en Europe et dans le monde. L'offre politique doit être définie, la proposition politique des uns et des autres doit être définie par rapport d'abord à ces problèmes, à ce qui nous rassemble, à ce qui nous unit, à ce qu'on a de commun, et comment faire pour que, malgré tout, ces problèmes qui s'accumulent, la France reste une et indivisible, une république forte, solide, dans une Europe forte et solide, dans un monde qui se dégrade de jour en jour.
Alors, lorsque l'offre est simple et claire, on assiste à une mobilisation, bien sûr, de l'électorat et en l'occurrence de la jeunesse. Vous voulez réagir?
Oui, parce que je suis absolument d'accord. Effectivement, il faut cette reconnaissance, mais il faut reconnaissance et redistribution. C'est pour cela que souvent, dans le camp de M. Macron, on dénonce la brutalisation de la vie politique, mais lui-même ne dénonce pas la brutalisation de la vie économique dont il est le premier responsable. Oui. Lorsque vous avez dans un pays les services publics qui sont dans un état de délabrement accéléré, notamment dans les quartiers populaires, vous avez en même temps, c'est le cas de le dire, M. Arnaud, qui a été il y a quelques années l'homme le plus riche du monde, vous avez des envolées des bénéfices du CAC 40, les gens à un moment constatent ces écarts croissants. Lorsque vous avez des étudiants qui sont obligés de se prostituer, des étudiantes qui doivent se prostituer parce qu'il n'y a plus de bourse. Oui. Quand vous avez les fils qui s'allongent devant la soupe populaire, il y a un moment, ça s'appelle de la violence économique. Oui. Donc la violence politique dont on parle tant n'est que le reflet de la violence économique dont on parle beaucoup moins. Et c'est cela qui sera l'enjeu des élections de 2027. Il y a un moment, qui sont les gagnants et les perdants de la politique économique du gouvernement en place?
Alors c'est cela qui va effectivement susciter l'engouement de cette jeunesse par rapport justement aux prochaines échéances électorales. Je le disais, est-ce que ça nous donne déjà une cartographie électorale pour la présidentielle 2027? Oui, non, ou alors on reste quand même à l'échelon local sur ce scrutin, monsieur le maire?
Non, je pense que l'élection présidentielle se joue effectivement très différemment du local. Les étiquettes sont quand même importantes dans une élection.
Ouais.
Donc, pour avoir une idée de cette élection, déjà commençons à connaître les candidats qui feront l'échiquier politique du moment. Parce qu'effectivement, je pense que cette élection présidentielle, en revanche, va rebattre les cartes du monde politique juste de l'après. Mais l'offre politique, effectivement, aujourd'hui, on a des candidats nombreux, mais parfois très proches. ou extrêmement différents.
Ouais.
Voilà, est-ce que c'est très clair? C'est pour ça que je rappelle simplement d'avoir une colonne vertébrale en politique et de cesser de faire des programmes et de gouverner à l'opinion publique. À un moment, s'engager en politique, c'est avoir une idéologie, c'est penser, c'est ramener les gens à ce qu'on pense et convaincre. Et si on continue d'année après année à vouloir faire de la politique à l'opinion publique, on ne fera que des déçus parce qu'on n'a jamais une 100% d'une ville, d'un pays qui pense la même chose. Et à part diviser et opposer les uns aux autres pour exister politiquement, alors ça n'a plus aucun intérêt.
Alors, bien sûr, cette jeunesse, on le voit un petit peu dans certaines grandes villes, ont voté massivement, même si, comme le disait Karim Amela, le plus grand parti de France reste quand même le parti des abstentionnistes. C'est dire qu'il y a encore du travail à faire auprès de cette jeunesse. Si on prend l'exemple de la Courneuve, les nouveaux inscrits représentent 60%. En termes d'âge, c'est les 18-24 ans. Plus de 60% des jeunes inscrits nouvellement, ils ont entre 18-24 ans. C'est prometteur tout ça, Karim Abela?
C'est prometteur, oui, bien sûr que c'est prometteur. On ne peut que se réjouir de ça et de cette présence accrue des jeunes sur les listes et du fait qu'ils votent. Après, vous l'avez dit, c'est à la Courneuve. C'est situé territorialement, et c'est aussi ça un peu une partie du problème de plus général de la diversité dont on parle depuis le début, c'est que c'est tout ça est quand même très situé territorialement. Je parlais de la ceinture rouge et d'une sorte de relan de ce qu'était le Parti communiste il y a très longtemps. Ouais. LFI a fait un extraordinaire travail de terrain, d'éducation populaire, en formant des jeunes et des moins jeunes à la politique. Il a fait,
en s'adressant à un certain électorat aussi.
Ça a fait
aussi,
génération, hein. En s'adressant d'une façon qui est, de mon point de vue, critiquable à certains segments, et celui-là en particulier de l'électorat. Mais ça n'est pas dans toute la France.
Je pense qu'on doit éviter justement d'être dans une situation...
Est-ce que cette jeunesse a dit, si on doit, j'ai envie de dire, interroger ces jeunes, on dit « jamais sans nous », c'est-à-dire que la France de demain ne se fera pas sans eux.
Alors, bien entendu, mais on ne doit pas arriver à une situation où il y aurait une espèce de face-à-face entre la jeunesse des villes et la jeunesse des campagnes.
Tout à fait.
Les jeunes des campagnes disent parfois « est-ce que nous devons mettre le feu aux vaches comme les jeunes des villes mettent le feu aux voitures pour qu'enfin on parle de nous ?» Bien entendu que non. Et l'idée n'est pas que les uns doivent voter LFI et les autres doivent voter RN.
Rassemblement national.
L'idée est de dire qu'au fond, les uns se sentent montrés du doigt dans les banlieues et les autres se sentent abandonnés. Personnellement, je n'ai envie ni d'être abandonné, ni d'être montré du doigt.
Oui.
Donc, le sort des uns n'est pas plus enviable que du sort des autres. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est avoir une politique générale pour tout le monde, avoir une politique pour la jeunesse et un programme qui s'adresse à tous. Mais à tous sans exclusion. Parce que beaucoup de partis politiques raisonnent en termes de segments. Or, ce n'est pas possible. Il faut intégrer tout le monde, y compris les jeunes de campagne, les jeunes de banlieue, les personnes âgées. C'est tout cela qui fait la
France.
Et ça s'appelle un vrai programme. Et tout le monde n'en a pas.
Monsieur le maire, vous vous êtes adressé à cette jeunesse à Colombes pendant cette campagne. Qu'est-ce que vous leur avez dit et qu'est-ce qu'ils vous ont dit surtout ?
Écoutez, je suis sorti il y a 3 ans, un soir, à 23h30, sur un appel d'un de ces jeunes qui m'a dit « Est-ce que tu es capable de venir nous voir maintenant ?» Dans le quartier du Petit Colombes. Et je suis monté sur mon scooter, je suis arrivé, je me suis posé avec mon casque sur le trottoir avec eux. Ça a duré jusqu'à 3h du matin et ils n'en avaient jamais vu.
C'était une première.
Voilà, un politique qui vient au Petit Colombes et qui se pose avec eux.
Vous avez joué la proximité à outrance, en fait.
Ouais, j'ai joué surtout que mon discours était de ne faire qu'une seule ville et de considérer que tout le monde était le même.
Et la promesse, c'était quoi, la promesse ?
La promesse, c'était de les aider à trouver leur place, simplement, et que chacun puisse trouver sa place. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, oui, ils s'inscrivent, ils sont 60% inscrits.
Voilà, plus nombreux.
Le problème, c'est que c'est un artifice, puisqu'en fait, ils sont inscrits automatiquement à 18 ans maintenant sur la liste électorale. Donc, ce n'est pas encore une vraie volonté de participer à la vie. Et puis...
on ne sait pas s'ils ont voté.
Une vraie volonté, on ne sait pas s'ils ont voté ou pas.
C'est pas forcément un acte fort. Mais moi, j'entends, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faille effectivement proposer, avoir un projet politique cohérent et qui entendent ce qu'ils veulent, qui répondent, mais qui les amène quelque part. Parce que ce sont souvent, si on parle des quartiers populaires, des jeunes désabusés qui prononcent le mot abandon fortement.
Le mot abandon.
Les quartiers, ouais. Ils nous ont abandonnés.
Ouais.
Et déjà, venir, c'était une chose. Y rester pendant 3 ans, parce que je ne suis pas évidemment allé une fois. D'ailleurs, c'est peut-être là où j'ai noué les meilleures relations de campagne. Pendant cette campagne, ça s'est construit pendant 3 ans et que je vois, avec qui j'ai échangé.
Comment
cette
jeunesse a voté, justement, à Colombes?
Elle a voté. La jeunesse, je ne sais pas vous dire. En tout cas, les quartiers populaires ont voté au premier tour. J'arrive en tête dans quasiment tous les bureaux de vote de la ville, à part 3-4 sur 48.
Ouais. Ouais.
Donc mon discours, j'avais réussi à casser ce discours et cette image que la gauche veut construire du mec de droite LR, forcément raciste.
Mm-hmm.
Et celui qui avait décidé de parler à tout le monde. Et moi, je suis corse et breton. J'ai ces deux origines que je revendique tout le temps, en me disant que c'est une richesse et que j'ai en face de moi une population qui a cette même richesse. Et qu'il faut cesser justement de parler aux gens comme s'ils étaient nés avec des désavantages.
Ouais.
J'ai considéré que quand on essaie dans la ville, la troisième ville des Hauts-de-Seine, du département le plus riche de France, dans la région la plus riche de France, à 10 minutes de Paris, à 5 minutes de la Défense, ça pouvait être une chance. Et qu'il fallait construire un projet à travers ça. Et mon job, c'est simple.
Et l'alternance, c'était une chance pour Colombes, pour la ville de Colombes.
Ah, je pense que vu le rejet, effectivement, de mes prédécesseurs, ça a été entendu comme une chance.
Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez vous partager les 2 dernières minutes qui nous restent à passer ensemble. Karim Amelal, justement, l'alternance.
Oui, mais moi, je crois que pour
Colombes, c'est une chance.
Vraiment, pour sans entrer dans le dédale des partis, mais pour parler sérieusement à cette jeunesse-là, à cette jeunesse des villes et cette jeunesse des campagnes, cette jeunesse désabusée qui se sent abandonnée, d'ailleurs avec des correspondances tout à fait évidentes, il faut parler de leurs problèmes, il faut parler de services publics, il faut parler de la lutte contre l'inflation, il faut parler de pouvoir d'achat, il faut parler des vrais problèmes des gens. Et je crois que celui ou celle qui gagnera leur suffrage en 2027, ce sera celui ou celle qui réussira à formuler une offre politique sérieuse, pertinente, qui ne parle pas d'origine, qui ne parle pas, qui ne surexagère pas sans le minorer le discours raciste, mais qui parle effectivement des problèmes des gens et qui apporte surtout des solutions.
Louis-Georges Autain.
Oui, je vous rejoins parfaitement. D'ailleurs, quand on regarde un peu les préoccupations des Français, premièrement, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, les services publics. Et quand on regarde les préoccupations des partis politiques, eh bien, tout cela apparaît très, très peu dans beaucoup, pas tous les partis politiques, mais beaucoup. Donc, il y a quand même une sorte de décalage entre les états-majors parisiens et la réalité du quotidien.
Monsieur le maire, vous allez continuer à rencontrer cette jeunesse à 3h du matin et passer des heures et des heures à échanger avec eux. Le mot de la fin avec vous.
Mais je le fais toujours, effectivement. J'ai bien l'intention de continuer parce que c'est ce qui est essentiel à cet engagement politique pour cette municipale. Et puis... J'ai souvent dit dans cette campagne, finalement, je n'ai jamais mis un bulletin dans une urne, ni pour qu'on réfléchisse à ma place, ni pour qu'on m'appauvrisse. Donc à un moment, je pense que le rôle des politiques, c'est de faire en sorte simplement de représenter les gens qui nous ont choisis et de répondre et les amener à un chemin, sur un chemin et à une vie meilleure.
Voilà, c'est et vous simple. Avez 6 ans pour honorer vos engagements. Merci, monsieur le maire, d'être venu dans nos studios. Merci à vous, Georges Autain et Karim Amelal. Merci de nous rester fidèles et rester branchés sur Radio Orient. Vous voulez réécouter cette émission, eh bien, vous avez la possibilité de le faire, donc à 8h du matin, à 22h, mais aussi le samedi à 9h du matin. On va vous réveiller le matin, comme ça vous allez réécouter cette émission que nous avons consacrée justement au décryptage des résultats du scrutin 2026 avec un focus sur les quartiers populaires. Excellente écoute.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Berre.